France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Claude Pennetier. Je suis né à Châtellerault le 16 mai 1942. Ça fait 77 ans. Et je suis pianiste, je suis musicien. Et je suis aussi prêtre orthodoxe.
Si on parle de répertoire, Jean-Claude Pennetier, on a évoqué toute cette période de musique contemporaine. Si on pense maintenant au ce qu'on appelle peut-être un peu de façon pompeuse le grand répertoire que vous jouez, on a le sentiment que vous chérissez les compositeurs qui ont pris le piano comme journal intime. Si on pense à Schubert, si on pense à Schumann, pense à Chopin. Voilà des compositeurs qui vous parlent à Fauré aussi et qui ont vraiment écrit pour ce piano qui parle, non ?
Exactement. Et puis le dernier Brahms aussi. Bien sûr, c'est eux que je chéris particulièrement et c'est eux que j'ai envie de privilégier sur toutes les années qui me restent à jouer. Mais j'y ajouterai quand même d'autres compositeurs. Et un compositeur que j'aime tout particulièrement et qui n'a pas la même caractéristique, c'est Haydn. Haydn, pour moi, c'est... Bah, parce que là aussi, c'est un langage musical. Pas dans le sens de parler journal intime, mais c'est une telle langue inventive et jaillissante que...
Mais il y a de l'humour chez Haydn.
Ah oui. Il y a de l'humour, il y a de la vitalité, il y a énormément de choses qui sont magnifiques. Mais de toute façon, les trois grands du style classique, c'est quand même inusable, si j'ose dire, que ce soit Haydn, Mozart, Beethoven. Ils ont quelque chose à nous apprendre, à nous dire, mais éternellement. C'est incontournable. Schubert, on peut le contourner. Schubert, c'est plus l'homme pour qui un interprète... Il va y avoir entre Schubert et l'interprète une élection. Mais on ne peut pas être musicien, soit en tant que mélomane, soit en tant qu'interprète, en ayant contourné Haydn, Mozart et Beethoven. C'est impossible. C'est-à-dire que l'on marche plus sur deux jambes, quoi.
Place pour Jean-Sébastien Bach ?
Alors, dans mon activité de pianiste, aucune. Ça peut sembler un peu radical. Bach, je trouve que jouer Bach au piano, c'est pas évident. Je l'enseigne un peu, et quand j'enseigne pas mal, je crois. Et tout ce que je dis, je ne sais pas le faire. C'est-à-dire que la base de mon enseignement, quand je fais travailler du Bach, je dis, mais ne jouez pas cette musique à genoux. C'est de la musique vivante que vous devez prendre dans vos bras et porter comme n'importe quelle autre musique. En fait, c'est à moi que je dis ça, parce que moi, je suis incapable de l'aborder autrement qu'à genoux. Bon. Je l'aime beaucoup au clavecin. Là, je trouve qu'il y a une telle juste relation entre le son du clavecin et l'œuvre de Bach. Oh, il y a des pianistes qui jouent Bach au piano absolument de façon formidable. Alors, on pense naturellement à Gould, mais je ne suis pas forcément inconditionnel de tout ce qu'il a fait, même dans Bach. Je pense par exemple à deux autres interprètes que j'aime beaucoup entendre jouer Bach au piano, c'est la pianiste chinoise Xiao Mei, qui, quand elle joue les variations Goldberg, c'est absolument extraordinaire. Et je pense à une pianiste qui n'est plus de ce monde, mais qui, quand elle jouait Bach, c'était formidable, c'est Yvonne Lefébure, qui avait une espèce de jubilation quand elle jouait Bach. C'était génial. C'était pas du tout musicologique, mais Dieu que c'était musical.
Si c'est complètement senti, on s'en fiche que ce soit pas musicologique.
Oui, il faut que le style soit cohérent avec le langage, quand même.
Claude Penthier, vous dites jouer en état de pauvreté. C'est quelque chose qui s'acquiert ou, sans même en avoir conscience, c'est quelque chose que vous avez toujours cherché?
On ne le cherche que quand on se rend compte que on arrive trop lourdement chargé, si je veux dire, et qu'il faut se débarrasser de quelques sacs qu'on a sur le dos qui nous pèsent. Je pense qu'un enfant n'a pas du tout cette notion-là. Des fois, je me dis, j'aimerais jouer aussi bien que quand j'étais enfant. Il y a chez les enfants, il y a eu une grâce. Parce que justement, s'ils sont doués, ils n'ont pas encore toute la charge des connaissances, des traditions, des ceci, cela. Et ça peut être miraculeux.
Vous avez souvenir de ça, par exemple, vous, enfant? Vous vous souvenez que jouer, c'était comme un rêve ou c'était comme quelque chose de...
Je vais être franc, je crois que je me l'imagine plus que de m'en souvenir. Il y a des choses que j'ai fait avec une totale innocence. Le premier disque Schubert que j'ai fait, c'était les impromptus opus 90 et les impromptus opus 142. Les opus 142, je ne les avais jamais entendus jouer par quiconque. Je ne les connaissais que par mon contact, moi, avec la partition. Et je me suis lancé, j'ai fait un enregistrement qui a été couronné, etc., etc., des meilleures récompenses, comme on dit. Et c'est vrai que 4-5 ans après, j'ai un coup de téléphone d'une jeune pianiste qui me dit, vous savez, je dois jouer telle œuvre de Schubert en concert dans peu de temps. J'ai maintenant 28 ans, mais j'ai jamais travaillé de Schubert avec un professeur. Il faut absolument que je vous voie et tout ça, etc. Et je me suis rendu compte que je n'étais jamais rentré dans cette façon de penser, quoi. De toute façon, ma vie s'est beaucoup nourrie du contact direct avec les partitions. Et je trouve que pour un pianiste, c'est d'une richesse extraordinaire, quoi. On peut mettre une partition, mettre un opéra avec la réduction de piano, mettre une partition d'orchestre, essayer de réduire. On a un accès direct avec les œuvres. Qui est une... Alors, j'étais bon lecteur. À un certain âge, je passais plus d'heures à jouer les opéras de Wagner que à travailler pour les classes de Holussein des Caves. Mais bon, heureusement que Louis Clavius Marius venait remettre de l'ordre un peu dans tout ça, parce que...
C'est pour ça que votre Bach ressemblait à du Tristan.
Absolument. Que là, je connaissais par cœur. Thank you.
parle un instant de la famille Pelletier. Vous nous avez parlé de votre femme, France. Vous avez rencontré, vous avez 6 ans. Elle était élève, elle aussi, de Lucette Descaves.
Lucette Descaves.
Ça n'a pas très bien commencé entre vous, mais visiblement, ça s'est plutôt bien continué.
Ça s'est arrangé plus tard.
C'est aussi une histoire de piano.
De piano, je ne sais pas, mais de musique, oui. Parce qu'on a, fait la classe d'harmonie ensemble. On a fait des devoirs ensemble que l'on camouflait en changeant des petites choses dans le devoir pour que le même puisse servir aux deux. C'était pas très honnête, mais enfin bon, c'était de bonne guerre. Et puis il y a une des fois où on avait fait un texte ensemble et on en était tellement contents qu'on n'avait pas envie de changer une note de ce texte-là. Donc France a copié les deux voix de femme, moi j'ai copié les deux voix d'homme et on l'a signé de nos deux noms. Et on a ajouté, c'était pas indispensable, fait de 22h à 3h du matin ou quelque chose comme ça. Le pauvre Henri Chalon, qui s'est trouvé devant ça, a été un peu interloqué. Il a commencé par dire, on ne m'a jamais fait ça. Et il a dû avouer que le devoir était excellent. Alors on était récompensés à cette époque-là par des rondes, des blanches, des noires, des croches, etc. Il y avait tout un système de notes, tout ça. Et là, il était très embêté parce que c'était un devoir qui méritait une ronde, quand même. Et donc, il l'a noté de deux blanches liées.
Oh.
Voilà. Ça, c'était très joli. Et puis, on a beaucoup joué à deux pianos pendant une période. France n'est pas très quatre mains, donc on a peu cultivé le quatre mains, que j'ai découvert beaucoup plus tard avec Christian Ivaldi, il y a 10-12 ans. Découvert naturellement, que j'avais fait du quatre mains, tout ça, mais vraiment apprécié. Et puis dans nos enfants, ils ont...
Vous avez quatre enfants?
Oui, on a quatre enfants. Donc France a été prof au conservatoire, professeur de rôle, ce qui correspond... dans un théâtre à chef de chant. Il y a une période qui était comique parce que ma belle-mère était professeure de lecture à vue. Donc il y a eu un temps de quelques années, on était tous les trois profs au conservatoire à Paris.
Les grands entretiens de Jean-Claude Pelletier, France Musique.
Jean-Claude Pelletier, il y a toute une partie de votre vie qu'on n'a pas encore évoquée. Ça et là, on a pu l'entendre, notamment lorsque vous parlez du texte, du rapport au texte et de cette lecture profonde qu'on peut faire et refaire et de ce texte qui transcende et qui dépasse. C'est l'homme engagé, l'homme religieux, le prêtre orthodoxe que vous êtes aussi. Votre cheminement dans la foi est passé par beaucoup de périodes, beaucoup de couleurs. Je crois que vous êtes d'une famille catholique. Oui. Comment est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce cheminement et l'épaisseur que ça vous donne?
Alors ce cheminement, je fais un saut en arrière et un bond en avant. L'orgue, je vous ai dit que quand j'ai été jeune, je voulais jouer de l'orgue, j'avais entendu tout ça. Et puis pendant très longtemps, je me suis dit, je voudrais faire de l'orgue, même à 30 ans, j'ai demandé où est-ce que je pourrais travailler, etc. etc. Et puis, quand j'ai été ordonné diacre, et ça c'était il y a pas 20 ans, mais presque, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie de faire de l'orgue. Ça a été une évidence pour moi que ça masquait l'idée que j'avais envie de servir dans l'Église. Et que comme ça s'était opéré vraiment par un service diaconal, alors que c'était fini. Sans ça, du point de vue spirituel, c'est vrai que quand j'étais Enfant, j'étais un enfant très croyant, très pratiquant, trouvant que mes parents étaient un petit peu tièdes, etc. J'étais plus engagé, si j'ose dire, intérieurement, que... Je m'étais demandé à un moment si je pourrais pas être missionnaire ou des choses comme ça. Bon. Et puis, l'adolescence arrivant, j'ai été pris dans une espèce de ce que j'appelle un nihilisme baudelairien. J'étais très, très, très épris de Baudelaire, de toute cette sorte de pensée et tout. Et puis, très vite, j'ai retrouvé un cheminement spirituel, mais pas, alors là, du coup, par tout ce qui est ésotérique, ce qui est oriental, et voilà. Et là, j'ai suivi plein de cheminements en rentrant dans des groupes ésotériques, en m'intéressant à Sri Aurobindo, puis au bouddhisme tibétain, et beaucoup plus tard au bouddhisme zen, à l'hindouisme, à l'alchimie, que sais-je. Cheminement qui a commencé bien avant 68, mais qui pour les 68 arts, c'était des choses connues et assez balisées. Je ne me suis jamais senti être pas chrétien. En même temps, j'étais dans plein de choses qui ne l'étaient pas, mais moi, bon, je me sentais quand même chrétien, ne sachant pas très bien d'ailleurs ce qu'il y avait derrière ce mot. C'est maintenant que je sais. Pourtant, j'ai eu le catéchisme, j'étais premier en catéchisme, j'aurais dû savoir. Mais... Donc, plusieurs fois, j'ai tenté de revenir dans l'église catholique. Je suis allé à des messes, tout ça, mais il y avait un langage qui n'accrochait pas, moi, tout ça. J'avais été abonné à une revue orthodoxe. Là, du coup, c'était un langage que je trouvais un petit peu hermétique, mais qui me plaisait bien. Et puis, bon, j'ai continué mon cheminement dans tous les choses qui m'accrochaient le plus dans les derniers stades de ma pérégrination, c'était le bouddhisme zen, de par sa radicalité, et puis qui m'inspirait dans mon enseignement. Tous mes élèves savaient qu'à un moment, je leur dirais qu'il fallait lire le bouddhisme zen dans l'archevaleresque du tir à l'arc de Monsieur Érigel. Voilà. Et ils savaient qu'à un moment, je leur disais, il faut lire ça. Mais c'était très post-68 tard, ça, c'est ce genre de lecture. Et puis, j'avais un ami qui était orthodoxe de naissance, qui n'était pas du tout croyant, pas du tout pratiquant, mais il voulait que sa fille soit baptisée orthodoxe. Et pour être son parrain, après des discussions sans fin, je lui dis, écoute, on arrête de savoir si c'est possible, pas possible, je me convertis à l'orthodoxie, et puis comme ça, je pourrais être son parrain. Et le soir de ma conversion, le soir de la crispation, ce qu'on appelle, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, maintenant je suis chez moi. Et de ce jour-là, j'ai abandonné toutes mes autres affiliations, si je dirais. Et puis, peu à peu, je suis devenu chef de chœur, naturellement. J'étais musicien, puis lecteur, puis sous-diacre, puis diacre. Et puis, ça va bientôt faire 15 ans. Maintenant, ça fait 15 ans, prêtre. Alors, j'ai d'abord été prêtre, mais le second prêtre d'une paroisse parisienne. Et maintenant, je suis le recteur d'une paroisse que j'ai créée à Chartres. Là aussi, il y a un rapport au texte qui est extrêmement important, bien entendu, puisqu'on se nourrit de textes immémoriaux dont le contenu est toujours à redécouvrir, toujours à actualiser, toujours à à sonder, à prendre en soi, non pas pour les disséquer, mais pour au contraire les rendre vivants dans notre vie. C'est là où j'ai trouvé vraiment la liaison entre mon activité d'interprète et mon activité de prêtre. D'abord, d'être confronté avec des langages qui ont des contenus, qui ont plein de couches superposées. Mais en même temps, aussi bien dans un texte sacré que dans une œuvre très dense, il faut bien rentrer par une porte. Sans ça, on va rester à l'extérieur à faire des espèces de fausses synthèses ou de moyennes. Non, il faut rentrer par une porte. Mais c'est aussi de, à travers le texte, de remonter jusqu'à ce qui a fait naître ce texte, de remonter à la vie même. Et ça, là, c'est vrai qu'il y a des corrélations. Le rite byzantin ne cherche pas à aller directement du point A au point B. Il circule. On dit des choses, on va les redire. Il semble extérieurement y avoir des retours en arrière. Et comme la musique de Schubert, c'est une invitation du... C'est de ce point de vue-là, parce que bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses. C'est une invitation à abandonner la pression du temps. On est toujours pressé par le temps. Oh, on va écarter ça et on va prendre le temps d'être là. Et Schubert, ben, la grande sonate en si bémol majeur, rien que le thème, si la si do ré do si do do do, si la si, on sait qu'on n'est pas dans un temps qui nous invite à nous rendre par le plus court chemin au but qu'il veut atteindre. On ne sait même pas s'il a un but vraiment. On va prendre le temps avec Schubert de rentrer dans son œuvre. Et dans la liturgie byzantine, c'est la même chose. On n'est pas là pour immédiatement être à la proclamation de l'évangile, à la communion. Ite missa est, et voilà, point barre, c'est terminé et on est bien content. Non, on sait que ça va durer un certain temps et que c'est surtout que ce qu'on va entendre, on va l'entendre de mieux en mieux parce que c'est, on est rentré dans une autre façon d'être imprégné par les choses.
La sonate Deutsch 960 de Franz Schubert par Jean-Claude Pentier pour terminer cette série des grands entretiens consacrés aux pianistes et prêtres orthodoxes. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Stéphane Boufis, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste. France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.